Je suis Emmanuelle Bertrand, j'ai 42 ans, victime de l'âge de 8 ans et demi à 17 ans d'agressions sexuelles répétées de la part de certains de mes cousins. Vous entendez ce silence? C'est de ce silence dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pour vous, il vient de durer quelques secondes. Pour moi, il a duré 30 ans. J'ai vécu des dépressions chroniques, des phobies d'autoroute, d'enfermement, des peurs de grands espaces. Si je cherche un dénominateur commun à toute mon histoire, cela se résume par un manque de communication, de formation et d'information à tous les niveaux.
Emmanuelle Bertrand s'exprimait à l'occasion des premières assises nationales de l'association Stop aux violences sexuelles. C'était en 2014.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une demi-heure de réflexion, d'écoute et de témoignage autour d'un thème, les violences sexuelles.
Les violences sexuelles sont une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s'agir d'attouchements ou de viols, et les violences sexuelles concernent en France une femme sur 4 et un homme sur 6.
Les 11 et 12 mars dernier, un week-end de formation organisé par l'association Stop aux violences sexuelles s'est tenu à Marseille. Nous y avons laissé traîner des micros, nous avons rencontré des victimes, écouté des expériences de soignants.
Avec la double casquette de grenouille en reportage et de citoyens conscients du tabou et de l'omerta profonde autour de ces tragédies, c'est ce que nous vous proposons d'écouter avec nous pendant environ 30 minutes. Et en fin d'émission, nous irons du côté d'Aix-Marseille Université, où différentes campagnes de prévention autour de ces questions ont été mises en place à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Commençons tout de suite avec une première rencontre. Commençons par écouter Violaine Guérin, la présidente de l'association Stop aux violences sexuelles.
Je suis Violaine Guérin, je suis endocrinologue et gynécologue médicale et je suis également présidente de l'association Stop aux violences sexuelles qui porte un projet de santé publique d'éradication des violences sexuelles.
Qu'est-ce qui vous a amené au fur et à mesure de votre carrière justement à monter, Violaine Guérin, cette association Stop aux violences sexuelles?
Alors, votre question est intéressante puisque je suis issue d'un hôpital pédiatrique, l'hôpital Necker Enfants Malades, et je n'ai jamais entendu parler de violences sexuelles ni faites aux enfants, ni quasiment faites aux adultes lors de mes études de médecine. Et ma spécialité, en fait, ce sont les maladies thyroïdiennes auto-immunes, et c'est en demandant aux patients d'aller mettre du sens sur pourquoi je fabrique des anticorps contre ma thyroïde, qui est un symbole finalement d'auto-agression, que beaucoup de gens qui ont fait des parcours de soins finalement sont revenus avec des antécédents de violences sexuelles, en particulier dans l'enfance. Donc c'est très important de comprendre que le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet tel qu'on le présente de manière générale, c'est-à-dire des violences faites aux femmes par des hommes, mais c'est avant tout un sujet qui touche les enfants, garçons et filles à égalité. Et donc le sujet des violences sexuelles, ce sont avant tout des violences faites aux enfants par des hommes et par des femmes. Là aussi, sujet qu'on aborde rarement, les auteurs féminines d'agressions sexuelles.
Dans votre ouvrage qui est disponible en accès libre hein, sur le site de l'association stopauxviolencessexuelles.com, Violaine Guérin, vous revenez justement sur ce parcours que vous venez d'évoquer au cours de votre carrière et comment les traumatismes peuvent absolument endommager ce que vous appelez également l'âme humaine, mais également Le corps,
tout à fait. On connaît un petit peu le sujet des violences sexuelles par le biais des présentations psychologiques et psychiatriques. On le connaît nettement moins sur l'aspect des complications médicales chroniques. Et aujourd'hui, la médecine est en train de faire des liens avec énormément de pathologies qui sont, on va dire, surreprésentées chez les personnes victimes de violences sexuelles.
C'est-à-dire ?
Donc des maladies auto-immunes, par exemple, thyroïdite de Hashimoto, maladie de base d'eau, maladie de Crohn, certaines scléroses en plaques, des endométrioses ou même certains cancers, hein, des cancers du sein chez une femme qui peuvent être des témoins tardifs de s'est passé de violences sexuelles. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a un cancer du sein, on a été forcément victime de violences sexuelles, mais il faut, sur certaines pathologies, poser des questions aux gens, de savoir quels sont les antécédents de violences, en fait.
La troublante mémoire du corps.
Voilà, la mémoire du corps, et on sait même aujourd'hui que ça modifie le génome, hein, puisque chez les enfants victimes d'inceste, par exemple à répétition, on va s'apercevoir que chez certaines personnes, les gènes même vont être modifiés. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Mmh. Donc on va plutôt passer à vos auditeurs le message qu'on peut guérir des complications de toutes ces violences, mais qu'il faut surtout écouter le corps. Vivre un viol, vivre des attouchements, c'est avant tout des atteintes sensorielles. Et il va falloir prendre en compte cette réparation du corps, puisqu'on le voit au niveau médical, si on n'écoute pas les souffrances du corps, le corps va vous envoyer des messages avec une escalade de gravité, en fait.
Justement, c'est ce que vous évoquez dans cet ouvrage, et tout le cinquième chapitre est consacré aux solutions possibles,
oui,
de réparation.
Voilà, il faut déjà...
Prenons le temps là-dessus, j'imagine.
Oui,
je pense que c'est important.
Il faut que les gens n'aient plus de honte à parler du sujet, donc ouvrent la parole et puis soient accompagnés justement dans des parcours de soins, que ce soit les personnes victimes ou les personnes auteurs aussi d'agressions sexuelles. C'est extrêmement important de réaliser qu'il faut mettre à disposition des parcours de soins pertinents.
Pertinents dans quel sens ?
Pertinent, entre autres, dans le sens de prendre en compte la réparation corporelle. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ont fait des parcours de soins, 15 ans de thérapie, 20 ans de psychanalyse, et qui ne vont pas être guéries. Et ça, une des raisons majeures en est qu'on n'a pas pris en compte la réparation corporelle à faire. C'est possible de guérir, c'est possible, bien sûr, et les personnes victimes et les personnes auteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller exactement dans le bon sens des schémas thérapeutiques. C'est-à-dire que quand on a été victime de viol, en particulier enfant, puisque ça touche essentiellement les enfants, on reçoit une énergie meurtrière. Ça, c'est très important à le comprendre. L'énergie développée par les auteurs n'est pas une énergie sexuelle, c'est une énergie meurtrière. Hein, on est sur le crime. Et donc, quand on est un enfant, on reçoit cette énergie meurtrière. En général, on n'a pas la capacité de se défendre et on contacte l'instinct de la légitime défense, qui est lui-même une énergie meurtrière. Si quelqu'un est en train de me tuer, j'ai le droit de le tuer. Donc il faut comprendre que quelqu'un victime de viol a en soi une double énergie meurtrière. Et c'est cette énergie meurtrière qu'il faut aller soigner, permettre de s'exprimer à l'extérieur pour que les gens ne soit retourne pas cette violence reçue contre eux-mêmes, hein, d'où des pathologies, des suicides. Hein. Beaucoup de jeunes font des suicides et des tentatives de suicide en rapport avec cette violence reçue. Hein. Mmh. Et donc, il faut aller exprimer cela parce que c'est aussi le vivier des faits d'auteur. Un certain nombre de personnes victimes vont elles-mêmes retourner cette violence à l'extérieur et vont devenir auteurs d'agressions sexuelles.
C'était Violaine Guérin, présidente de SVS, pour Stop aux violences sexuelles, association qui a organisé un week-end d'information, de formation, au mois de mars, ici même, à Marseille.
Et Simon, nous nous sommes rendus l'oreille tendue à ces conférences. Thérapeutes, psychologues, médecins, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Et parmi elles, il y avait des professionnels, mais aussi des victimes.
Comme cette femme qui est venue par curiosité personnelle. Nous l'appellerons D. Elle a accepté de nous parler un lundi matin autour d'un café près de Saint-Charles. Et voici sur Radio Grenouille un extrait de notre conversation avec D.
Les séquences physiques, elles sont dramatiques. Hein. Au début, on a cette amnésie post-traumatique. Moi, elle a duré pendant... comme c'est arrivé en fin 2006, ça a commencé à partir de là jusqu'en 2011. Alors on a des trous de mémoire noirs pendant un temps. Et après, on a des cauchemars et on a cette la mémoire qui revient, mais elle ne revient pas. Alors elle revient, puis elle repart. Et quand elle revient, c'est effrayant parce qu'on voit réellement la réalité. Donc là, on est effrayé parce qu'on... qu'on se dit avoir subi, et on est dans la fuite de cette vérité. Et donc ça met une enquête, on est rentré dans l'anxiété, dans la dépression, les questionnements, on comprend pas. Donc on veut absolument là être dans fuir. À la limite, on se la crée presque l'amnésie. Parce qu'on ne veut pas voir. Mais malgré tout, elle nous rattrape. Elle nous rattrape pourquoi ? Parce que là, on somatise. Et c'est le corps qui parle. Et qui nous dit presque, cocotte, tu ne vas pas t'enfuir comme ça. Hein, tu as le corps. Donc, on a ces douleurs gastriques. Ensuite, elles sont énormes. Elles ne vont pas me revenir comme ça. Ouais, il y a eu les nausées, les douleurs abdominales, les ballonnements alors intestinaux, les syndromes du côlon irritable. Après, j'ai eu les fibromes de toucher. J'avais des saignements. Il y a eu les problèmes neurologiques, les douleurs, les maux de tête, les malaises, les vertiges, perte de cheveux. On voit son corps comme ça se dégrader. Et là, on se dit, c'est un Hiroshima intérieur. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et ça nous ramène à la réalité. Et on a besoin d'en parler. Hein.
Dire, parler, témoigner, raconter. En dehors du cercle amical ou familial, les avocats sont souvent les premiers à recevoir le témoignage des victimes, même si plus de 9 victimes sur 10 ne portent pas plainte.
Lors de ces deux journées de rencontres et d'échanges organisées par Stop aux violences sexuelles, deux avocats sont intervenus, maître Julien Blot et Baptiste Camerlo.
Le premier se place souvent du côté des auteurs et le deuxième des victimes. Ils nous ont expliqué ce que veut dire un procès dans le cas de violences sexuelles.
Alors le procès, c'est donc l'État qui poursuit l'auteur présumé et donc qui va réparer le trouble causé à la société en jugeant et en condamnant l'auteur. Et dans le cadre de ce procès, la victime intervient, est présente et intervient pour donner sa parole.
Et pour la victime, qu'est-ce qu'il faut, vous disiez, comprendre que ce n'est pas une thérapie ?
Tout à fait, effectivement, le procès n'est pas une thérapie, mais la victime, le procès pénal est aussi le moment pour elle de parler, de pouvoir être écoutée, entendue, et le moment aussi pour elle d'être reconnue victime. Donc, cette reconnaissance, cette qualité de victime qui est importante pour elle, et cette reconnaissance-là, elle l'a dans le cadre de ce procès, parce que c'est quelque chose que les victimes réclament, veulent un procès, veulent une condamnation pour qu'elles puissent tourner la page et commencer un travail, effectivement, le travail de reconstruction, de réparation. Le procès n'a pas cette vocation-là de réparer le préjudice de la victime, mais de reconnaître la qualité de victime, justement.
C'est vrai que les victimes sont de plus en plus reconnues, et les associations de victimes aussi, c'est-à-dire qu'elles disposent du droit maintenant de se constituer partie civile, d'intervenir dans le procès pénal en tant que telle, en tant qu'association de défense des victimes. Donc c'est vrai que ça, c'est l'évolution un peu de la procédure pénale qui accorde de plus en plus de place à la victime. C'est comme ça, c'est vrai que je pense que ça répond à une exigence de reconnaissance du statut de la victime et aussi à une réponse, je pense, de la société hein, qui préfère évidemment s'occuper des intérêts de la victime que des intérêts de l'auteur. Maintenant, moi, de mon point de vue, le procès pénal, c'est pas le procès de la victime et ça reste le procès d'un individu à qui il est reproché tel ou tel fait.
Un autre point intéressant, c'est le maître Julien Blot qui va nous l'expliquer. Julien Blot est avocat spécialiste de la défense des auteurs de violences sexuelles. Il va s'exprimer à leur sujet en résonance avec ce que nous disait Violaine Guérin en début d'émission.
D'après les études qui sont faites, ce sont souvent des personnes qui ont elles-mêmes été victimes dans leur enfance ou dans leur passé de violences sexuelles. Et c'est vrai que c'est souvent la reproduction de violences subies qui vont ensuite donner lieu à une violence exercée. Donc c'est souvent ce schéma-là, oui.
Alors dans le cas d'une condamnation à de la prison ferme, comment vous le percevez, le passage justement par la casse-prison ? Enfin, c'est souvent, ça aide ou pas ?
Alors, bon, ça aide la société à accepter le comportement déviant. Ça aide la victime à se reconstruire. Pour le condamné, on ne peut pas dire ça peut l'aider dans le sens où la règle lui est rappelée et le respect de la règle. Après, concrètement, avec les conditions de détention, le peu de perspectives, ça l'aide pas en termes ni de réinsertion ni de prévention de la récidive. Donc c'est vrai que la prison, c'est souvent un moyen par défaut qui permet de lutter contre la gravité des faits, contre l'émotion qui est suscitée par des comportements parfois très graves et très sordides. Mais après, concrètement, ça aide, on ne peut pas dire que ça aide l'auteur à se réinsérer ou à se reconstruire. Non.
Donc la place d'un auteur d'agression sexuelle ou de violence sexuelle serait plus dans un hôpital, ou au moins encadré par une équipe de soins, si ce n'est libre?
Oui.
Mais soigner.
Voilà, l'essentiel c'est les soins. Après, l'idéal serait que évidemment les soins puissent intervenir de façon satisfaisante en détention et que la prison ne soit pas un espace de violence, de contraintes et d'absence d'espoir et d'avenir. Il faudrait que ça soit un lieu effectivement de construction de l'avenir et de soins, de reconstruction d'une personne qui est détruite par sa propre vie, par l'acte qu'il a commis et par les conditions de détention. Voilà, c'est pas le cas, donc c'est vrai qu'il faut, pour l'instant, c'est une solution par défaut. Je pense qu'il faut faudrait qu'elle soit maniée avec beaucoup de prudence, parce que effectivement, il me semble plus favorable de privilégier les injonctions de soins ou les obligations de soins pour permettre à ces personnes-là qui sont souvent et avant tout, en tout cas dans leur passé, victimes, à connaître leurs propres problématiques, à les soigner pour ensuite pouvoir réintégrer la société sans aucun danger pour les concitoyens.
Nous venons de l'entendre, quand il y a des violences sexuelles, il y a parfois des procès, mais parfois non, pas l'envie, pas le désir, le courage, la possibilité, car des délais de prescription existent, 10 ans après les faits pour un viol sur une personne majeure, 20 ans à partir de la majorité pour une personne mineure, 3 et 20 ans dans le cas d'agression sexuelle aggravée.
Pour Isabelle, il n'y a pas eu de procès, mais sa parole est libérée. Et pendant les journées d'information de stop aux violences sexuelles qu'elle a contribué à organiser, Isabelle a, à plusieurs reprises, témoigné devant l'assistance. Pour dire son passé, mais surtout son présent. Et 2 jours après notre venue, lors de ce week-end de formation contre les violences sexuelles, nous l'avons retrouvée à la Friche Belle de Mai. Micro ouvert cette fois, et écoutons donc son témoignage.
Donc je suis Isabelle Hervouette, je suis comédienne, metteur en scène et peintre. Et j'ai été victime dans mon enfance, de l'âge de 5-6 ans jusqu'à l'âge de 10 ans quand j'ai révélé les faits. L'auteur était mon grand-père paternel. À l'époque, j'ai déposé mes inquiétudes et cette question auprès de mes parents, et je ne me souvenais que d'attouchements. Je dis que d'attouchements, mais en fait les attouchements sont aussi des actes qui peuvent avoir des répercussions très très fortes. J'ai découvert l'association SVS il y a 3 ans, et j'ai suivi les premières bases à Marseille en 2014. Et je suis maintenant engagée dans l'association parce que je pense effectivement qu'il y a urgence et que, au-delà de mon parcours personnel, je suis entourée de proches qui ont subi des violences et qui sont extrêmement mal informés sur ce que provoquent les violences sexuelles et extrêmement mal informés sur les possibilités de guérison, comme le formule Violaine Guérin et comme le formule les personnes, les thérapeutes qui travaillent pour l'association. Donc ça me semble essentiel de pouvoir dire aux gens qui ont été victimes qu'il est possible de guérir de ça. Donc, c'est ce qui, je pense, c'est ce qui fonde mon engagement dans l'association, mais aussi ce qui fait que je suis active dans SVS, c'est que cette association déjoue plein de tabous. Et c'est-à-dire qu'il y a autant de garçons que de filles qui sont victimes. Pour moi, ça, c'est très important, parce que c'est vraiment, disons, une réflexion ou un mouvement qui, de pacification de la société, c'est-à-dire de pacification des relations hommes-femmes. Ça fait tomber des tabous, des préjugés, et je trouve ça extrêmement important. C'est-à-dire que je n'en ai jamais voulu à tous les hommes pour ce qu'un homme m'avait fait dans l'enfance, et j'ai envie d'agir pour ça aussi.
Dernière peut-être réflexion, Isabelle, on l'a vu durant ce week-end, et tu l'as évoqué bien sûr, mais j'aimerais l'importance du savoir parler, du savoir exprimer, mais ce qu'on a pu entendre aussi, c'est l'importance du savoir écouter, la question de la crédibilité, être entendu. Quel regard tu portes sur l'entourage justement?
Je vais redire une chose qui a été dite, hein, les enfants n'inventent pas. Et moi, j'avais des parents qui me disaient, si tu as quelque chose qui t'inquiète, nous sommes là. Donc, j'ai mis un certain temps à leur parler, en sachant ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai oublié des choses aussi. Mais à partir du moment où je leur ai parlé, ils ne m'ont posé aucune question. C'est-à-dire, pour eux, c'était... La chose était claire, c'est-à-dire que à 10 ans, je ne pouvais pas inventer ce que j'étais en train de raconter. Et ça, c'est fantastique. C'est vraiment merci, parce que personne n'est prêt, quel que soit le milieu, quelle que soit la culture des gens et tout ça, personne n'est prêt à entendre que le père du père est un agresseur. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Je pense que aussi, effectivement, j'ai parlé du mouvement, du corps et tout ça, mais enfin, ce moment-là où je n'ai pas eu, on ne m'a posé aucune question, je n'ai pas eu à m'expliquer, à raconter plus que ce que j'avais dit, a été formidable, vraiment essentiel. Et après, c'est sûr que parler, c'est... Ce que je peux raconter, c'est qu'à partir de ces 18 ans, quand j'ai commencé à en parler à l'extérieur du cercle familial élargi, hein, ça veut dire les tantes aussi, voilà. J'ai commencé à en parler et j'ai recueilli des témoignages d'amis. Donc j'ai eu vraiment très vite la confirmation, un, que je n'étais pas seule, enfin, même, voilà, pas seule victime, que c'était quelque chose qui était répandu, malheureusement. Et en fait, j'ai pris en charge j'ai continué à prendre en charge ce qui était ce que j'avais été dans l'enfance, c'est-à-dire permettre la parole, tu vois. Et c'est essentiel, vraiment essentiel. C'est arrêter de permettre... alors, comment dire, moi parlant à l'âge que j'ai, tu vois, c'est donner la possibilité à des personnes qui souffrent d'arrêter de leur donner des billes pour arrêter ce cercle de douleur qui est mortel, mortel, vraiment. Et moi, ça m'a donné, le fait d'avoir été entendue, ça m'a donné un sacré appui. C'est-à-dire que, en même temps, on bascule dans une drôle de situation. C'est-à-dire que on a une conscience de ce qu'est la vie bien plus tôt que prévu. Et puis autour de moi, il y a des personnes qui se sont vraiment écroulées. Donc en fait, le jeu, quand on est enfant, se sent aussi responsable des adultes. Donc il y a une bascule comme ça. Là, je ne saurais pas vraiment... je pense que là, je ne suis pas rendue au point où je peux mettre les mots justes là-dessus. Mais j'ai pris en charge la peine des autres. C'est-à-dire, on reconnaissait ma force, donc j'avais un statut particulier dans la famille, celle qui a arrêté quelque chose. Mais en même temps, je me sentais, sans me le formuler comme ça, bien sûr, et sans qu'on me le dise, parce que personne ne m'a dit que j'étais responsable de l'effondrement de certaines personnes de la famille, mais je me sentais quand même responsable de ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a 40 ans, en fait, les prises en charge n'étaient pas les mêmes. Donc moi, je n'ai pas été prise en charge. J'ai fait mon chemin, nous avons fait en famille un chemin sans thérapie particulière. J'ai eu des moments de grande tristesse et c'était les poumons qui étaient touchés. Et alors, si tu connais un peu la médecine chinoise, le poumon, l'émotion associée au poumon, c'est la tristesse. Donc en seconde, à l'âge où la sexualité commence à s'éveiller fortement, moi j'étais tout le temps malade de bronchite, tu vois, des signes comme ça. Donc j'ai pas été pris en charge sur cette question-là particulièrement. Mais en revanche, j'ai été entendue. Donc il faut vraiment parler, partager. Et ce que je trouve très important dans l'association, c'est qu'il y a quelque chose... un déroulé très clair des mécanismes, une étude, une décomposition en fait des mécanismes très clairs, et ce sont des outils aussi de partage. Mais il faut parler parce que comme on le sait, c'est 13 millions de personnes qui sont touchées, et c'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse et c'est de la peine pour rien. On n'est pas sur Terre pour souffrir, vraiment. Je veux dire, on peut avoir un accident de bagnole, on peut avoir une tuile qui nous tombe sur la tête, mais là, on sait qu'on peut faire quelque chose. Et les gens restent beaucoup avec leur souffrance parce qu'il y a beaucoup, il y a de la pudeur, il y a de la méconnaissance des mécanismes. Et puis, pour certaines personnes, la souffrance est une façon d'exister. C'est devenu, au fil de leur vie, une façon d'être vivant. Et c'est aussi ça qu'il faut faire entendre, c'est qu'on n'est pas... souffrir, c'est pas... C'est juste de la survie, quoi. C'est juste de la survie.
Continuer dans nos recherches, nous sommes allés faire un tour du côté de Aix-Marseille Université, en passant un coup de téléphone à Virginie Mercier. Virginie Mercier est maître de conférence à la faculté de droit et de sciences politiques. Elle est la référente pour tout ce qui est harcèlement sexuel à l'université. Beaucoup de choses ont été mises en place concernant cette thématique, à l'initiative d'ailleurs du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. On l'écoute, Virginie Mercier, sur Radio Grenouille.
Effectivement, il y a une circulaire du 25 novembre 2015 qui est dédiée à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, qui invite les établissements et les universités à accompagner les victimes de harcèlement et à mettre en place des mesures de prévention et d'action en matière de harcèlement sexuel. Tout à fait. Alors, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, diverses actions ont été mises en place, et notamment, effectivement, la mise en place d'un dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel qui recouvre en réalité deux volets, donc un volet prévention et un volet traitement des cas déclarés de harcèlement sexuel. Alors sur le volet prévention, cette dimension préventive, elle recouvre en fait l'information et la formation, deux volets effectivement essentiels. L'information, c'est le fait d'informer, de sensibiliser l'ensemble des personnels et des usagers, hein, donc des étudiants d'Aix-Marseille Université, sur ce qu'est le harcèlement sexuel, sur les conséquences du harcèlement sexuel pour les victimes, mais également pour les agresseurs, sur les poursuites disciplinaires et judiciaires qui peuvent être engagées, et également sur le dispositif qui existe au sein d'Aix-Marseille Université. Donc nous avons collaboré avec le service communication d'Aix-Marseille Université, qui a mis en place toute une politique de communication autour de ce dispositif, à travers notamment les réseaux sociaux, des campagnes d'affichage au sein des différents établissements.
Mmh. Et un numéro a été mis en place également.
Effectivement, il y a une ligne internet, une ligne mail dédiée, et puis un numéro de téléphone, hein, qui est le 04 13 550 550. Totalement anonyme et gratuit.
Ensuite.
Alors sur le volet prévention, il y a l'information, mais il y a aussi la formation. Et on a déjà engagé des actions de formation, qui ont d'ailleurs été élaborées par des associations spécialisées. L'idée, c'était dans un premier temps de former les membres du groupe de travail harcèlement sexuel, les membres également de la commission disciplinaire d'Aix-Marseille Université, et puis les membres de la DAGI, qui est la direction juridique d'Aix-Marseille Université, qui sont donc les premières personnes concernées dans un premier temps par cette question. Et puis une autre campagne de formation va avoir lieu courant 2017 et 2018 d'ailleurs. Donc, puisqu'on va former les personnels médicaux, médico-sociaux, tout particulièrement, puisque ce sont aussi des personnes qui sont directement contactées par des étudiants ou par des personnels qui seraient dans cette situation de victime. Alors, le traitement du harcèlement sexuel, il a été mis en place à travers un dispositif qui repose sur un référent, en l'occurrence donc une référente en charge de cette mission, qui a pour rôle donc de traiter les cas déclarés par les personnels, par les étudiants victimes, mais également par d'éventuels témoins. Donc, nous avons mis en place un numéro de téléphone, et puis également une ligne, une adresse mail, pour leur permettre de rentrer en liaison avec le dispositif. Mmh. Alors, l'idée de ce dispositif, c'est d'avoir d'abord un premier accueil par une personne en charge de recevoir donc cet appel, et de créer un dossier totalement anonyme. Et ensuite de me contacter afin que je rentre en contact avec la personne, que je puisse prendre rendez-vous. Donc la mission en elle-même, elle implique de recevoir les personnes victimes ou les témoins de harcèlement. Donc c'est une première étape qui consiste à écouter la personne, à l'aider à discerner si les faits relatés relèvent effectivement ou non du champ d'action du dispositif. Parce qu'il peut aussi s'agir simplement de relations de travail conflictuelles, hein, qui amènent dans ce cas-là une réorientation. Donc écouter et également accompagner et orienter les victimes. Alors en leur apportant des conseils, moi je suis juriste, donc il va y avoir évidemment des conseils juridiques. Et puis également les orienter vers une aide adéquate, pédagogique, médicale, psychologique, sociale. Donc ça implique, c'est une fonction qui implique une réorientation vers les services compétents.
J'imagine, donc vous, en tant que référente, Madame Mercier, vous discutez justement, vous communiquez aussi à votre échelle sur ces différents dispositifs et ces différentes possibilités mises en place par l'université. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment sont reçues justement la mise en place de toutes ces actions par les personnels des universités, par les usagers et usagères du campus?
C'est une démarche qui a été accueillie de façon très positive. La réaction, notamment sur les réseaux sociaux, suite à la campagne de communication sur l'existence du dispositif, montre effectivement que les étudiants, notamment, trouvent cette démarche bienvenue et vraiment très positive. Un peu moins de retour, effectivement, de la part des personnels, qui s'expriment pas forcément, effectivement, comme nos étudiants sur les réseaux sociaux. On n'a pas terminé la campagne de communication, donc on n'a peut-être pas encore touché tout le monde. Il faudra faire un bilan dans les 6 mois pour voir quel est l'impact effectivement de cette campagne et voir s'il y a davantage de déclarations. Mmh. Oui, il y a une chose qui est importante, c'est que la présidence, le président d'Aix-Marseille Université et la gouvernance portent ce message politiquement au sein d'Aix-Marseille Université. Et c'est nécessaire, c'est essentiel pour qu'un tel dispositif fonctionne. Le fait qu'il y ait le soutien politique du président, c'est une vraie volonté de sa part de mettre en place ce dispositif.
Soutien politique et en moyens, évidemment, pour mettre en place et le numéro et le personnel rattaché à toutes ces histoires.
Oui, alors ça, c'est plus d'un point de vue opérationnel, mais... on peut tout à fait, dans n'importe quel établissement, qu'il soit public ou privé, mettre en place un dispositif de ce type, un dispositif d'alerte. Si c'est pas porté politiquement, si l'information n'est pas portée et communiquée assez régulièrement par la présidence, on le sait, c'est comme les politiques RSE dans les entreprises privées. Si c'est pas porté par le dirigeant, ça ne convainc personne.
Merci beaucoup Virginie Mercier d'avoir répondu à ces quelques questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Aix-Marseille, notamment à la faculté de droit et de sciences politiques. Et vous êtes la référente autour de toutes ces questions d'harcèlement et des violences sexuelles. Merci à vous. Le docteur Violaine Guérin, présidente de Stop aux violences sexuelles, l'association SVS, nous l'avait confirmé lors de nos différentes discussions. La parole se libère ces dernières années, les victimes se regroupent, les initiatives se multiplient, comme celle dont nous venons de vous parler pendant cette grosse demi-heure. Et ces mots, savoir parler, savoir écouter, prennent désormais tout leur sens au quotidien sur ces questions taboues. Nous sommes tous et toutes susceptibles de connaître quelqu'un de notre entourage, qu'il soit victime ou agresseur.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner à notre micro. Vous pourrez retrouver les références et les liens vers les différentes structures évoquées sur notre site, comme d'habitude, www.radiogrenouille.com.
C'était une émission de Simon Morin et de Margot Wartel, réalisé par Sébastien Gély, à retrouver bien entendu en réécoute sur ce même site de La Grenouille.